Rouge sur un cheval blanc. Comme le peuple d'Israël dit qu'il est dans le grand bonheur, ben chemin et chorum ben yvat, il oublie qu'il dit d'ailleurs qu'il dit dans la paracha de Razino. Et alors, quand il y a des persécutions, quand il y a de la pauvreté, quand il y a des problèmes, il revient toujours, ça le rappelle à l'ordre, il rappelle toujours, il revient à la voie de la Torah. C'est Amar, c'est pourquoi il a dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a répété deux fois, ou bien il a dit Hashem Elokeinu, ça veut dire que Hashem Elokeinu, il va dire pourquoi. Chez Hashem, le mot Dieu, Mure Midas Harahamim, il indique l'attitude de la miséricorde de Dieu. Hapoel Hato, celui qui agit pour le bien de l'humanité. Et quand il dit Elokeinu, Elokim, Hashem Elokeinu, Mure Midas Haddin, Hapoel, Din Veronish. Il indique pour l'attitude de la justice et de la punition. Ho Echad, Hashem Elokeinu, Ho Echad, il est l'un, il est l'unique. C'est-à-dire, Hashem Elokeinu, que ce soit Midas Harahamim, que ce soit Midas Hadid, l'attitude de la miséricorde, ou l'attitude de la justice et de la rigueur, ou bien, Ho Echad, ce n'est qu'un, une unité, pour l'auto, tout entier, c'est du bien. Ou pour El Achto, il n'agit que dans le bien, par Hesed et dans la bonté, Shazé Amar, c'est pourquoi il a dit une deuxième fois, Hashem Havaya. Est-ce qu'il avait besoin de dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Il avait simplement besoin de dire Hashem Elokeinu Echad. L'éternel, notre Dieu, est un. Étant donné qu'il a répété deux fois Hashem Elokeinu, Hashem Echad, eh bien, les deux fois pour le dire, il est un, que ce soit Midas Harahamim ou Midas Haddim, ce n'est qu'une unité, qu'un seul Dieu. Voilà. Le Hakom est Ahed, bien Houd. Et tout devient une unité parfaite. Alors, nous avons dit Hashem Echad, donc Hashem Elokim, il a répété deux fois Hashem pour nous dire que ça soit Midas Hadim, que ça soit Midas Harahamim, ce n'est que Echad, une unité, mais à quoi Mid Ahed, tout devient Bihoud Shalem, avec une unité parfaite, c'est pourquoi à la fin, Be'ahata et Hashem Elokecha. C'est ça qu'elle a dit, de la crainte qui arrivera à l'amour de la Kadosh Baruch Hu. Après Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem qui est Midas Harahamim, Elokeinu qui est Midas Hadin, est une Echad, est une unité. Alors, de cette condition, de sur cette base, Be'ahata et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, tu arriveras à l'amour de Dieu.
האיחוד הזה כולל שלושה עניינים. סונותאיז, אלא יקריא את תרוע סיג'י, תרוע עניינים. היותו התברך אחד בעצמו, איתו דומה כדומה, דנסו נסנס, יראה אין. Étant donné qu'il est un, le Roshirilat Hakashmiyot. Et bien, étant donné qu'il est un,
il est bon.
Et le prolétarisme, ce que vous appelez, n'est-ce pas, à l'idée, on ne peut pas le qualifier pas ces choses abominables, pas ces shalom, ni bichimi, ni matérialiste, ni composé, ni dualiste. Deuxièmement, en disant Hashem Echad, Shlilat Hashniyot Shiho Echad Ve Eloi Zolaton, c'est la négation complètement du dualisme, il n'y a aucun autre Dieu excepté lui. Le troisième point du monothéisme, c'est l'unité de la lumière de l'infini, de Insouf Arachnir. Bishmota, par ses noms, chez vous, Bémi Dotav, par les attitudes de Dieu que vous connaissez, El Arachon Behanou, El Arachon, ce sont les attitudes, 13 attributs de Dieu. Ce sont les mythos. Chez vous, Humanigita Olamon, que c'est le même qui dirige tout le monde. Yehoud, Kutchabelechou Shrente, et par l'unification de Kutchabelechou. L'unification de Kouchabelechou avec sa Shekhina, chez vous, qui est Yehud Malchoto, qui est la gloire de son règne, l'expansion de la divinité dans son monde. Que déjà, on peut imaginer la lumière de cette divinité, Ameir Be'olamot, qui éclaire dans les mondes, pour les conduire et pour les faire mouvoir, pour la hayutam et pour les faire exister. Comment, exemple, le nefesh, avec pashtes vagvina, et qui tient l'eau au rechaim, comme le souffle, comme l'âme, qui se répand, se diffuse dans le corps, pour lui donner la lumière et la vie. C'est toi, Dieu, qui fit exister et vivre tout ceci. Étant donné, comme l'âme qui est donnée dans le corps pour le faire exister et pour régner sur le corps, sur tous les membres du corps, l'âme se trouve toujours en opposition à son règne dans le corps, puisqu'il y a du tserhara. Mitzad encore du côté du corps, ou tva'av, et ses natures, et le trou notable, sur ses caractères. Pourquoi? Parce que le corps est considéré comme un zaké noxir, comme un vieux sot. Haromet qui n'égdam par la passion de tserhara, du mauvais penchant, qui s'oppose toujours contre le népêche.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser
des questions? Attendez, là je finis, il faut poser. Pour la faire révolter dans son rêve. Maintenant, je suis à vous.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mal dans le monde, et vous parlez maintenant qu'il était là.
Ah, mais justement, il va arriver, il va l'expliquer. C'est assez mal à l'expliquer. C'est tout un ensemble.
Pour un problème de méthode, là, je pose une question. On avait en principe au programme, aujourd'hui, un fait duré M, on avait à lire.
Mais de toute façon, vous allez écouter patiemment et comprendre qu'est-ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut dire que l'un c'est l'autre. Avec patience.
Pour la vie à Moshe Rabbeinu, lui a dit, je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Jacob, mais quel Shaddai, par le nom de Shaddai. Ushmi Havaya, mon nom Havaya, je ne me suis pas fait connu avec mon nom de Havaya. Et lui, mon cher Benoît, demandait savoir connaître même Dieu lui-même, il voulait même voir plus très profondément Dieu, sa nature et son nom. Et lui disait assez, alors pour combattre le mal qui existe, ce qui nous semble le mal qui existe dans ce monde, c'est-à-dire la force de la pureté qui nous entoure à chaque fois, pour le combattre, Zéya assez, Ali Dim Sirat Nifish Ali Houdoum, par donner même son âme, si nous tenons un dévouement complet pour comme Rabbi Akiva, pour les Houd Hashem. Et alors là, ça me vient une idée, je m'excuse entre parenthèses, pas dans le Malbim, les Houd Hashem, si vous me permettez, si vous me faites le plaisir, vous écoutez ça, il dit dans chaque matin, vous dites dans la prière, nous disons dans la prière, Olas Tamid Ha'asunya Beha Sinai, l'holocauste perpétuel qui est fait sur le mont Sinaï. Cet holocauste, c'était Olas Tamid, au temps de Bessamikdash, on faisait un holocauste Tamid. Pourquoi il appelle Tamid? Et alors je crois que si je me rappelle bien dans le Tzik, qu'est-ce que ce bosse, dans la Gemara, qu'est-ce que ce bosse, on a dit, on a posé la question à Rabbi Eliezer Hagadol, au grand Rabbi Eliezer. On lui a dit, quelle est la signification vraiment de ce verset à Olas Tamid, l'holocauste perpétuel? Il a dit, lui, il a répondu, Rabbi Eliezer Hagadol, la question a été déjà posée par mon élève, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit qu'il a mangé que des feuilles, il n'a pas pu toucher à la racine. Alors, par la suite, Rabbi Akiva a entendu ce qu'il a répondu à Rabbi Eliezer Hagadol, et il a dit, maître, maintenant j'ai même la racine dans les mains, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends, voilà, il a dit, donc voici ce que tout le monde a dit, que si on avait retiré Hanania, Misha et Bahazaria, vous avez entendu parler de Hanania, Misha et Bahazaria, les collègues du prophète Daniel, que Nabucodonosor avait jeté dans le feu, parce qu'il refusait de se prosterner devant le Tselem, devant Abu Dazara, devant Elil, un idole. C'est très long l'histoire, je vous dis comme ça, vous pouvez le lire dans la prophète Daniel. Eh bien, on a dit, on les avait jetés dans le feu. On a dit que si on les avait retirés pour les martyriser, pour les martyriser comme un... Comment on dit les choses qu'on attrape les gens, pour les torturer, comme on avait fait à Rabbi Akiva, si on les avait retirés pour les torturer comme on a fait à Rabbi Akiva, eh bien ils n'auraient pas pu résister, ils auraient cédé, ils auraient adoré le chose à... Mais quand on les a jetés dans le feu, c'est vite fait, ils ont donné, voilà, mais c'est autre chose, on meurt, c'est fini. Mais Rabbi Akiva, il dit, maintenant j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit à Rabbi Akiva, comme il faisait lui, il a dit, si Rome, il avait décidé, avec les qualités, de ne pas étudier la Torah, il est allé d'un village à l'autre pour enseigner la Torah. Ses disciples lui avaient dit, maître, ils vont t'arrêter et tu vas souffrir. Assez d'étudier la Torah. Il avait répondu, le poisson, les poissons ont dit, quelqu'un, un animal a dit au poisson, sautez un petit peu dehors avec nous, on s'amuse un petit peu. Ils ont répondu, comment déjà, comme Hayotenu, dans notre vie, dans notre existence, dans l'eau, les hommes viennent, ils nous pêchent, ils nous sortent, ils nous tuent, ils nous mangent. Et alors, si nous sortons, on se met à leur exposer, à leur disposition, à peu importe les hommes qui viennent nous ramasser, c'est comme ça que la Torah est comparée à l'eau. Vous savez le problème. Si dans notre étude de la Torah, il vient nous faire du mal et pourtant de mal, à peu importe les hommes, si on se retire, si on s'écarte, Hasbi Shalom, de la Emouna, de Torah, mon cher Abbéno, que nous aurons le plus grand mal terrible. Et alors, c'est ça, c'est dans la famille de l'opposé, c'est-à-dire, il y a un degré, puisque vous venez de dire ici, un degré de Kiddush Hashem. Est-ce qu'il y a un degré plus fort que celui de mourir à Kiddush Hashem? Dites-moi s'il y a un degré à la plus forte. Vous-même répondez-moi. Je vous l'avais dit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un degré plus fort? Est-ce qu'il y a un degré plus fort que de mourir à Kiddush Hashem? Eh bien, il y a un degré. C'est de vivre à Kiddush Hashem, vivre à Paris, passer à Pigalle, passer dans les métros, dans les n'importe où, et rester juif vraiment, et rester attaché à la Torah, c'est plus fort, vous permettez, c'est plus fort, oui, c'est plus fort, voilà, que Hanania Michel Bahazaria.
Maintenant j'ai compris pourquoi il fallait que vous parliez.
C'est plus fort que Hanania Michel Bahazaria, c'est vivre à Kiddush Hashem comme Rabbi Akiva, voyez bien. Alors c'est ça qu'il dit.
Et s'il vous plaît, est-ce que c'est pas mieux de dire en Israël plutôt que de dire
en Israël?
Mais alors en Israël, c'est d'abord en Israël.
Je vais répondre, vous permettez, justement. Il y a un midrash qui dit, celui qui vient dehors d'Israël est comparé comme il ressemble à celui comme celui qui n'a pas de Dieu. Pas exactement, il n'a pas un Dieu. Allez-y.
C'est un midrash, c'est
pareil.
Est-ce que je peux vous faire une enquête personnelle? Le texte du Valdil est sans doute important, mais est-ce que vous pourriez le résumer? Parce que comme nous sommes à l'intérieur, si vous voulez, la signature de M. Ashkenazi, et on a un programme, comme on a un micro maintenant, et que M. Ashkenazi en train de rentrer avec moi, est-ce que vous auriez un
enquête? Si vous voulez, moi, parce que le texte est déterminé, il est là.
Vous savez comment je vais tomber si vous finir?
Il est à la fin.
Est-ce que vous pourriez nous résumer aujourd'hui?
Il est à la fin.
Il faudrait 3 jours pour résumer.
Ça se développe
en un mot. Cette phrase de Flaubert.
Alors, je réponds à la demoiselle. Là. Je ressemble comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est les Israël. Dans le pays, dans la terre sainte, devant Dieu, permettez, vous êtes vraiment dans la kidoucha des Israël. Dans le pays où Dieu s'est manifesté plusieurs fois, près de Beth Hamikdash. Alors là, si on transgresse en Israël, quoi que ce soit, c'est beaucoup, beaucoup plus sévère, c'est terrible. Au point que l'on dit dans la Torah, mais le taquet est très marré, attention, parce que la terre, on ne vomir de nouveau. Allez, je réponds à votre question, mademoiselle. Alors, quand on va en Israël, en effet, là-bas, on doit pratiquer au maximum. Mais là-bas, nous sommes tous vraiment à être à la lettre avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune difficulté. En dehors des Israël, dans le bois de Toba que nous venons de souhaiter, nous avons toutes les excuses. On peut demander pardon, nous avons toutes les possibilités. Mais quand on est Israël, on arrive en Israël, il faut savoir prendre conscience vraiment où nous sommes, devant qui nous sommes, et l'importance et le but de notre existence visée dans la terre d'Israël. Déjà, c'est magnifique ceux qui parlent pour construire Israël. Cette mitzvah, déjà, de Binyan, de la construction de l'Israël, même qu'ils sont transgressants, cette mitzvah, il équivaut à tous les mitzvot, déjà. Mais qu'avec la Emouna, vraiment, s'ils ont la Emouna, et qu'ils continuent à se perfectionner, il ne faut pas qu'ils se basent sur ça. S'ils ont la Emouna, qu'ils continuent à se perfectionner, à pratiquer toutes les mitzvot qui dépendent d'Israël. Pourquoi, mon cher Benoît, qui souffrait tellement quand on lui avait refusé de rentrer en Israël? Pourquoi il avait souffert tellement? C'est parce que mon cher Abénou, il voulait pratiquer les mitzvot qui dépendaient des Eretz Israël. Il y a énormément, la plupart des mitzvot ne dépendent que des Eretz Israël. Ils ne dépendent pas. Concernant le Bétamikdash, concernant la moisson et la culture de la terre, concernant énormément de mitzvot, la majorité des mitzvot ne dépendent que des Eretz Israël. Bon, alors nous revenons à la question. Comme nous avons dit, il faut mettre le nefesh comme la bia qui va, car comme on renonce aux forces du corps physique et qu'il les livre à la mort pour le royaume de son âme divine, ainsi il agira dans le macrocosme, comme vous appelez ça, dans le Olam HaGadol. Pour que le Gouahatoma se renonce complètement, cesse, mais Teva Hatsava vers Maharekhet, la nature, Sava Maharekhet, l'armée céleste d'en haut, et Salim Allah qui sont sous le royaume céleste, comme il a dit, la Pia qui va au moment qu'il a donné son âme à la mort, Kol Yamai Haïti Mistahir Al-Fasoukzi, Matayabou Yadi Makayman, toute ma vie, j'ai souffert pour ce verset, quand il va venir entre les mains, pour que je puisse finalement le mettre en pratique. Et voilà, maintenant, il est arrivé entre les mains, et je vais le mettre en pratique. Oulam, ça, il a fini encore, un petit texte, il a fini, mais ça va vraiment résumer tout ce qu'on a dit. Oulam, Yahoud Hazi, cette unité de Dieu, le Yougmar Adi Asidavon, il aboutira jusqu'à l'Asidavon, jusqu'à Mashiach, quand il viendra le Mashiach. Tel qu'il dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'il a dit, monsieur le rabbin, toute la semaine, monsieur le grand rabbin, excusez-moi, toute la semaine, nous a dit, Yahashem le Melech. Oui, il devait être nommé grand rabbin dans notre comté, dans Aoran, dans toute l'Oranie. Et je sais, par son père, il a fait quelque chose qu'il avait refusé. Si vous voulez un enseignement, il faudrait vraiment être féminin. Vous savez, vous n'êtes plus trop.
Ça fait des tours. Alors, le Haya Hashim le Melech HaTorah Ares, il dit dans la Torah, à la fin des temps, alors, Hashim HaVaya, il sera un roi sur toute la terre. Bayoum HaO, ce jour-là, il y a Hashim Echad, le nom de Dieu sera un, et son nom, que vous a expliqué toute la semaine, sera un. Shishimu, quel est son nom? Hayinu Middat Malchuto, c'est l'attribut, c'est l'attitude de son Malchut, de sphère, de Sphira, de Malchut, du royaume de Dieu. Shitiahed al-Shekhinatu Malchuto, que sa Shekhina et son royaume seront unifiés, seront un, Ad Rosh Hamadrigot, jusqu'à ce que degré concrètement maximum, là on arrive au Malchut Bakul Mashallah, le royaume de Dieu s'étend dans le monde entier. Et concernant ça, on dit, chez Yaakov, comme vous avez dit le rabbin toute la semaine, Yaakov Abinou, il a cherché à dévoiler, à expliquer le quête, la date de Mashiach, le Galus, la fin de Galus. Mais Stalkahimenu Shekhina, et la Shekhina s'était retirée, l'avait quittée. Amar, il a dit Yaakov Abinou, Shimesh Bilbaba Mahloket, peut-être ils ont entre eux, dans leur cœur, un conflit contre, ils ont une opposition contre ça. Comme dans le Sifri, il explique mieux, voilà en deux mots. Shaïl Fadakov Yumin Aulam, car Allah Ibn Abi, il a pris ses enfants, il les a, Okihan, il leur a fait des paroles, de Moussa, de Moural, chacun indépendamment, et après, il a fait ensemble, il leur a dit que vous avez une opposition dans le jeu, contre Shi'amar Vihaya, contre celui qui a créé le monde. Alors, ils ont dit, va Israël, écoute Israël, comme dans ton cœur, il n'y a aucune mahlokes, aucune division, aucun conflit, aucune haskisharon autre idée. Ainsi, dans notre cœur, il n'y a aucune mahlokes. Al-Misham raconte celui qui a dit que le monde existe. Et là, seulement, Hashem Elokeinu, l'éternel notre Dieu que vous avez évoqué jusqu'à maintenant, Hashem Echad, il est l'un unique pour nous tous, nous sommes tous d'accord. Alors là, il a dit, Il a fini par dire Baruch Shem Kevod Malchuto Yaolam Vahad. Alors c'est normal.
Je crois qu'il n'y avait rien d'inutile, même les choses supplémentaires. Je veux dire, elles sont homogènes, mais le verset qui nous occupe a pour objet l'affirmation de l'unité. Et Rachid nous avait donné une lecture, que nous avons située parmi d'autres lectures, que je vais reprendre très brièvement. Le verset disait, « Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, celui qui est Elokeinu, notre Dieu, lui qui est notre Dieu, Hashem Echad est un Hashem unique. » Et un, pardon, pas unique. Et un. Unique se dirait. Yachid. Et voilà donc la lecture de Rashi. Hashem, Shehu, Elokeinu, Ata, le ridouche de Rashi, le terme qu'il ajoute pour expliquer sa propre lecture, c'est Hashem qui est notre Dieu, Ata, maintenant. Déjà maintenant. C'est moi qui ajoute déjà. Velo, Eloke, Aumot. Et pas le Dieu des nations. Et vous rappelez qu'il y a d'autres sanctions qui précisent et pas le Dieu des nations idolâtres, c'est-à-dire qui reconnaissent comme Dieu un autre Dieu apparemment, puisque le terme par lequel ils désignent leur Dieu n'est pas celui qui désigne le Dieu 1. Petite parenthèse, vous vous souvenez, nous avons eu cette petite analyse mardi soir, si je me souviens, oui, mardi soir, ne confondez pas, il ne faut pas confondre monothéisme et monolâtrie. Et même si vous avez dans telle ou telle tradition l'affirmation de l'excellence d'une divinité parmi les autres, la négation des autres, il y aurait la monolâtrie, parce que c'est une divinité particulière qui est reconnue comme le seul Dieu qu'on reconnaît, mais ça ne signifie pas qu'il s'agisse du Dieu un, mais une parmi les divinités qui est érigée en Dieu seul. Mais cela ne serait pas monothéisme à proprement parler, mais monolâtrie. Je me réfère en particulier à l'analyse de M. Rowski citant Freud concernant le monothéisme du culte solaire en Égypte, alors qu'il s'agit en réalité d'une monolâtrie. Vous vous rappelez de cela? Et
nous gardons les deux lectures, je pense d'après les manuscrits, que, enfin disons les sources que nous avons, que le texte que vous avez ici devrait être complété, nous devrions dire Hashem Shehu Elokeinu Ata Velo Eloke Umot Ovdei Elohim, et non pas le Dieu des nations idolâtres. Puisqu'il est bien évident que le problème ne se pose pas pour des nations qui ne reconnaîtraient aucune souveraineté divine, quelle que soit. Mais le problème se pose de l'opposition entre cette formulation, cette proclamation de foi du monothéisme, telle que nous l'avons dans notre verset, face au polythéisme. Donc, Hashem, Shehu Elokeinu, Ata. Et Hashem, qui est notre Dieu déjà, et quelqu'un s'adresse à Israël pour lui dire cela, nous allons retenir par postulat qu'il s'agit de la lecture de Moïse s'adressant à Israël. Hashem Shehu Elokeinu Ata, Velo Eloke Umot Haolam, et non pas, et pas le Dieu des nations, Hu Atid Liyot Hashem Echad. Hu, je traduis d'abord littéralement, Hu, lui, Atid est destiné, Liyot, à être, Hashem Echad, Hashem 1. Deux lectures possibles, que je vous rappelle. Et soit Rashi aurait voulu dire, est destiné à être reconnu comme étant le Dieu 1 par tous, reconnu par tous comme étant le Dieu 1, et là nous serions à un niveau de problème de langage, de formulation de l'invocation. Cela porterait sur le nom de celui qui est un nom, N-O-M. Ou bien, deuxième lecture possible, c'est celle que nous retrouverons avec le Maharal, avec le Gourarier, c'est que, en réalité, ontologiquement, réellement, le Dieu 1, qui est le seul qui existe, unicité, et qui, comme tel, dévoile son unité malgré toutes les apparences, les analyses que nous avons eues toute la semaine, est déjà le Dieu d'Israël, mais pas encore celui des autres nations, et cela signifierait qu'il y a entre lui et les nations d'autres médiations qui n'équivalent pas à lui-même, mais qu'un jour il arrivera que ces médiations disparaîtront, et qu'il sera ontologiquement, non pas seulement reconnu comme, mais qu'il sera réellement aussi le Dieu des nations. Et ce sont deux lectures différentes. Bon, le problème n'est pas simple. Apparemment, c'est un problème d'exégèse. Et c'est d'abord un problème d'exégèse, mais nous allons voir rapidement qu'au-delà du problème d'exégèse, c'est un problème de théologie assez considérable. Et il s'agit là de deux visions du monothéisme hébreu dans l'implication de ce que la tradition hébraïque dit du sens théologique de l'histoire universelle. Et ces deux lectures sont possibles parce que Rashi cite deux versets à l'appui de cet énoncé. Et le premier verset, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans le prophète Sphania, Sophonie, chapitre 3, verset 9, « Kiaz et for el amim, et for el amim, safa brura, ikro kulam veshem hachem. » Je traduis, « Car alors, dans ce atid liyotechad, alors, bayomaru, en ce jour-là, az, en ce jour-là, et for, je verserai el amim, vers les peuples, Safa Brura, une langue épurée, Likro Kulam Beshem Hashem, afin qu'ils invoquent tous le nom de Hashem. Le premier verset, comme nous allons le voir immédiatement plus en détail, vient indéniablement fonder la lecture de Rashi selon le Réhem, le premier commentaire que nous aurons à lire. Puisque, bien évidemment, ce verset indique qu'il y a une situation où le langage des nations est différent, et chaque nation ayant le sien. Mais plus que cela encore, que le langage des nations est différent de celui d'Israël dans l'invocation de celui qui est Dieu. Et que les autres nations n'invoquent pas encore le nom du Dieu 1, Israël déjà, et d'une certaine manière, dans la mesure où la souveraineté de Dieu dépend de la reconnaissance de l'homme quant à cette souveraineté, le Dieu 1 serait déjà le Dieu d'Israël par le feu. L'indice étant que l'invocation concerne le Dieu 1, et pas encore celui des nations, puisque nous aurions, comme je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, un phénomène de monolâtrie à la rigueur lorsque les nations viseraient dans leur évocation le Dieu unique. Il s'agirait de monolâtrie, non pas de monothéisme du Dieu 1. Bon, il y a un deuxième verset qui semble être beaucoup plus précis du point de vue de la lecture du Maharal. Benémar, il est dit aussi, Zacharia, chapitre 14, verset 9, prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9, Be'aya Bayomahu, et en ce jour-là, il y est Hashem Echad, sera Hashem 1, ou Shmo Echad, et son nom 1. Alors je prends très brièvement l'exégèse de ce deuxième verset, et nous allons aborder tous ces problèmes, et je vais essayer vraiment de les simplifier, à cause de la difficulté de lecture, directement sur le texte du Réhem et ensuite sur celui du Mar. Et que nous étions arrivés à l'année suivante, et le verset a deux affirmations, deux propositions. En ce jour-là, Dieu, lui, sera un et son nom sera un. Alors, nous devons le lire de cette manière. En ce jour-là, voici ce que sera la situation de ce problème. Lui sera un comme il l'est déjà, et son nom sera un comme cela n'est pas encore le cas. C'est clair jusque-là ? Il n'y a pas de difficulté de lecture. Bien, alors abordons tout de suite la lecture. Il y a une tension entre ces deux réalités, lui et son nom. Si vous voulez, j'expliquerai ça très très brièvement, provisoirement, en tout cas de la manière suivante. Voilà, la manière la plus simple de comprendre cela serait ainsi. Si je figure ainsi l'allusion à lui, celui qu'il est en lui-même, et vous savez très bien que c'est impossible à désigner, puisqu'il y a cette connaissance que nous ne pouvons pas avoir de ce que lui est en lui-même. Ce que nous pouvons avoir comme connaissance, c'est la connaissance du dévoilement de sa relation à son monde. C'est cette relation qui est appelée en hébreu le shem, c'est-à-dire le nom. Est-ce que c'est suffisamment clair? Le nom dévoile lui. Le shem dévoile vous. Mais en le dévoilant, il le cache. Puisqu'il ne dévoile que la relation de médiation entre lui dans son infini et son monde, qui est au niveau du fini. Il y a donc une tension entre lui et son nom. Ce n'est qu'à travers son nom que nous pouvons faire allusion à lui, mais ce n'est qu'une allusion. Mais son nom, nous pouvons le connaître, lui pas. Et son nom, c'est quoi? C'est le nom le plus exhaustif, le nom qu'il dévoile en relation et en médiation avec la totalité du monde. Je ne veux pas dire l'infini du monde, parce que c'est une autre catégorie, contrasté avec l'infini de lui. Et donc, c'est pourquoi c'est le nom de l'être, dans le sens absolu. L'être, le terme être est le nom de celui qui fait être. Bon, je ne voudrais pas trop analyser ça.
Vous pouvez revenir à Rachid, alors vous, maintenant que le nom est expliqué.
Alors ça veut dire, Vaya Bayoma, Iyé Hachem Echad, comme c'est de toute éternité, comme c'est déjà aussi. Ushmo Echad et son nom sera un, et cela n'est pas encore le cas, puisqu'il est invoqué par des noms différents. Il est invoqué en Israël, par Israël, par son nom authentique, son nom qui désigne son unité, mais par les autres nations, pas encore. Alors notre problème, et nous allons le voir plus en détail, entre le Réhem et le varié, je vais essayer de le mettre par le schéma suivant. Imaginons qu'il y a ici l'infini de la multiplicité des nations. Et là, l'allusion à lui dans son unité. Ça voudrait dire donc qu'il y a des noms différents par lesquels les nations invoquent son unité. Est-ce que c'est purement un phénomène verbal, ou est-ce qu'en réalité ça correspond à des médiations réelles, concrètes, qui fait qu'il y a une réalité du nom dans la définition de lien avec telle ou telle manière d'être créature? Et donc il y aurait des dieux sur la face du Dieu un, ce qui rend compte d'ailleurs de l'expression de la Bible. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi j'ai cité l'expression de la Bible elle-même, en la traduisant bien sûr. Elle est Elohim Achirim Alpanaï. Qu'est-ce que c'est Elohim Achirim Alpanaï? Ce serait ces noms-là. Mais est-ce que c'est uniquement un phénomène verbal de l'invocation des nations? Ou est-ce qu'en réalité, jusqu'en ce jour-là, Bayomaru, il y a des relations différentes de providence entre le Dieu 1 et chacune des nations, à la manière d'ailleurs qui correspondrait à la manière dont elle l'invoque? Est-ce que ce sont des réalités ontologiques? Purement des réalités verbales. Toute la controverse entre Réhem et le Garrier est là. Apparemment, c'est un problème d'exégèse. En réalité, c'est un problème de vision théologique de l'histoire des hommes, radicalement profond et différent. Vous comprenez? Alors, on va aller doucement, doucement. Alors, abordons le Réhem. Je vais vous le lire une fois, sans interruption, comme nous faisons d'habitude, simultanément, en hébreu et en français. Et ensuite, on reviendra sur les difficultés que ça pourrait poser, mais je ne voudrais pas découper la lecture en trop de parenthèses. Alors, vous avez donc le texte ici, dans ce premier paragraphe. Je sais que ça a été photocopié très faiblement, si j'ose dire. Enfin, essayons de lire quand même. Et vous commencez là, à la ligne qui commence par la lettre Vav. À peu près 5 ou 6 lignes. Allons-y. Alors, vous suivez avec moi? Le Réhem commence par citer l'expression du verset qu'a cité Rashi pour la commenter. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, qui est notre Dieu, et Rashi avait, va ajouter maintenant, Hachem Echad est un Dieu un. Et voilà donc la citation de Rashi d'abord par le Réhem. Hachem Sheu Elokeinu Ata. Hachem, qui est notre Dieu maintenant. Velo Eloke Aumot, et non pas le Dieu des nations. Ati Diyot Hachem Echad, est destiné à être Hachem un. Yaz et Poch El Amim Safa Brora. Car, alors je verserai sur les nations une langue épurée, Ikro Beshem Hachem, pour invoquer le nom de Hachem. Avec la citation que le Réhem fait de Rashi est un petit peu modifiée, mais ça ne change pas le sens. Simplement, l'habitude des commentateurs de citer l'essentiel de ce qu'ils veulent commenter des citations précédentes. Sheneemar, Bayom Ahu Hachem Echad, Ushmo Echad, et ainsi qu'il est dit, en ce jour-là, lui sera un et son nom sera un. Ça va jusque-là? Bon. Deim Loken, parce que s'il n'en était pas ainsi, dit le Réhem peut essayer de rendre compte, de justifier la manière dont Rashi explique. Alors le Réhem dit, Deim Loken, parce que s'il n'en était pas ainsi, si nous n'entendions pas ainsi le verset, ainsi comme le dit Rashi, Shema Israël, Hashem Echad, il aurait suffi de dire, écoute Israël, Hashem Echad, Hashem est un. Ou bien, Hashem Elokim Echad. Hachem, qui est Dieu, est un. Mais bah, il aurait dû dire cela. Le verset aurait dû dire cela. Kemo, comme par exemple nous trouvons dans un autre verset. Hachem, hu Elokim, bashamayim imma'al, varet, mitahat, enot. Le verset que le Nefesh HaChaim vous avait cité le jeudi soir, pour ceux qui étaient là. Comme il est indiqué dans la formule de cet autre verset, car c'est Hachem qui est ce que vous désignez comme étant les dieux. C'est Hachem qui est Dieu, tout Dieu possible. Bashamaim Imaal, dans le ciel en haut, et ensuite vous avez Vav Gimel Vav, c'est-à-dire Vegomer, etc. Je vous en ai la fin du verset, ou Aaret Mita, vers la Aaret Mita Had, et sur terre, en bas, et en haut, il n'y a pas d'autre. Ar Kaché. Donc, premièrement, tentative de justification de Rashi d'après le Réhem. Le Réhem nous dit qu'il y a, premièrement, un problème d'exégèse. Il y a un mot de trop dans le verset ou un mot de moins. Il aurait suffi de dire, si c'était l'essentiel, si le message de l'unité était l'essentiel de l'enseignement du verset, il aurait suffi de dire « Écoute Israël, Hachem est un ». Ou bien « Hachem, Dieu est un ». Pourquoi le verset a-t-il dit « Hachem, notre Dieu » et répète « est un Hachem un ». Ça c'est la justification de Rashi par le verset. Arcaché. Et cependant, ça reste difficile, ajouterai même, de le fiser. Car à travers cette explication de Rashi ainsi entendue, Haïkra, ce verset, Lav Bihudo Itbarar Kamiare, n'enseignerait pas le principe de l'unité de Dieu. Et vous avez ici une expression en hébreu rabbinique, en hébreu araméen, en hébreu aramaïque, si vous voulez, et dont le sens est Lav Bihudo Itbarar Kamiare, ça veut dire le verset n'a pas l'intention d'enseigner, de nous apprendre le principe de l'unité de Dieu. Puisque il viendrait dire que c'est en fin de compte, dans ce jour-là, que cette unité s'affirmera et apparaîtra. Puisque, selon Rashi, ça voudrait dire que l'intention du verset est de nous dire que le Dieu un est souverain d'Israël déjà maintenant et pas encore celui des nations. Cela sera un jour. Et ça voudrait dire donc que l'intention du verset n'est pas de nous dévoiler le principe de l'unité de Dieu, mais un détail dans ce principe. Et cela contredit, semble-t-il, va nous dire le Réhem, d'autres enseignements. Et là, chez Maudit et nous, mais il viendrait nous faire savoir, chez vous, a-t-il Yotechad, qu'il est destiné à être un. L'école à Oumot pour toutes les nations. Mais donc, moi, Arshav, et pas, en ce jour-là, plus, comme la situation de maintenant, chez Yesh l'école Ouma Veouma, et l'Oka Bifne Atzmo, où il y aurait, où il y a, pour chaque nation, un dieu particulier. Est-ce que c'est suffisamment clair? Voilà ce que veut dire le Réhem. Si nous lisons Rashi, comme nous venons de lire, ça voudrait dire que ce verset n'enseigne pas l'unité de Dieu, mais tout à fait autre chose. Relié au problème, mais tout à fait autre chose. Qu'un jour, il sera un. Mais qu'en attendant, il y aurait pour chaque nation un dieu différent. Vena d'Abarken. Mais il n'en est pas ainsi, dit le Réhem. Il veut nous mettre en garde sur l'implication possible d'une lecture qu'il a lui-même donnée. Rien à savoir qu'elle, et il n'en est pas ainsi. Chez Haré, il voudrait parar, car le principe de son unité, et il faudrait dire ici que peut-être le Réhem joue sur les deux tableaux. Il joue aussi sur le régime de l'unicité. Parce que Yichudo, ça veut dire aussi, mais essentiellement d'ailleurs, l'unicité. Son unité se dirait en hébreu Ahduto. Son unicité, Yichudo, son unité, Ahduto. Echad, Ahdut, Yachid, Yichud. Et un troisième terme, je vous signale en passant, unification se dit Yichud, avec Aleph. Mais unicité, Yichud, avec Yud, unité, Ahdut. Donc le fait que le Réhem emploie le mot de Yichudo, ça fait aucun doute qu'il pense à l'unité, mais avec aussi le sens de unicité. Mais chez vous, il se va tracer. Or, nous savons d'autre part que c'est un commandement positif de la Torah. L'olamdu'oto, razal, elami haikra. Un commandement positif de la Torah, de croire dans l'unité absolue de celui qui est Dieu, et que ce commandement positif, nos maîtres l'ont appris précisément de ce verset, l'ont tiré de ce verset. C'est-à-dire qu'il y a, dans les 613 mitzvot, une mitzvah qui nous oblige de savoir, de croire, de savoir, et je peux répéter dans tous les ordres, croire et savoir, mais c'est la même chose à ce niveau, que Dieu est un. Et ce commandement a été induit, relié, appris, précisément de ce verset. Donc l'exégèse de ce verset véhicule le principe de l'unité de Dieu, un point. Et comment se fait-il que Rashi vient de nous dire que c'est plus nuancé que ça, que le principe de ce verset, c'est surtout l'annonce, la promesse, et l'annonce qu'il en sera ainsi un jour. Et cela implique qu'en attendant, chaque nation a un Dieu différent. Est-ce que vous avez bien compris comment le Réhem tend à mettre en contradiction des connaissances que nous avons, nos positions, des connaissances que nous avons d'autre part, que le principe de l'absolu, de l'enseignement de l'unité de Dieu a été compris, appris de ce verset-là, et non pas cette nuance que Rashi nous a expliqué, que le verset eh bien enseigné quelque chose de très précis, et bien donné, je cherche un mot en français, c'est pas encouragement, consolation, quelque chose qui va avec, il va rassurer Israël, sache Israël, alors c'est vrai, le Dieu un n'est encore que notre Dieu, mais un jour il sera le Dieu de tous. Avec deux lectures possibles, reconnues comme telles ou ontologiquement réellement. Alors le Réhem discute avec tout cela, en disant si c'est cela, cette nuance, que selon Rashi le verset va enseigner. Et nous avons compris pourquoi Rashi est obligé de l'expliquer comme ça, parce qu'il y a Elohim nous et pas Elohim. Il faut expliquer ce nous, notre. Mais alors, malgré tout, cela viendrait en opposition avec un enseignement que nous avons d'autre part, qu'il y a un commandement positif de croire et d'affirmer l'unité de Dieu, maintenant, de façon absolue. Et que nos maîtres ont appris ce commandement de ce verset-là. Je ne sais pas si j'ai réussi le tour de force de vous dire en français ce que le Réhem a pensé en hébreu, mais il y a un peu de ça. Je peux avancer ou il y a une question?
Oui.
Alors, lentement, parce que les choses ne sont pas simples.
Si j'ai la nuque raide, mais est-ce que vous pouvez nous dire une fois de plus la différence entre cette formule que vous venez de la dernière, « Sache Israël, le Dieu un n'est encore que notre Dieu, mais plus tard il sera pour tous », et l'autre formule qui pourrait être « Sache Israël, nous sommes encore les seuls à appeler un » notre Dieu, mais plus tard, ce seront tous qui l'appelleront comme
ils
ça.
Ils ne sont pas encore arrivés là. Ils ne sont pas encore arrivés là.
Oui.
J'ai répété plusieurs fois que c'est le problème que nous avons à résoudre. Et peut-être que jusqu'à la fin du cours, je vous le laisserai en plan, parce qu'on n'arrivera pas à rejoindre ce niveau. Et peut-être que c'est là le cas, si vous voulez, de deux lectures parallèles possibles, parce qu'il y a deux tempéraments théologiques à l'intérieur de la même tradition. Deux tempéraments théologiques, l'un qui serait affolé, épouvanté à l'idée que ontologiquement, il en est ainsi jusqu'à la fin des temps, qu'il y a le Dieu, providence d'Israël, et d'autres médiations, invoquées par d'autres noms, mais qui sont des réalités, qui sont providence des autres nations. C'est une découverte un peu affolante pour une perspective théologique, disons.